Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
En 1300, la France est agitée. Les Français envahissent à nouveau la Flandre en 1299 et capturent Guy et ses fils, Robert et Guillaume, en janvier 1300. En mai, la totalité de la Flandre est sous contrôle. La conquête de la Flandre a été relativement facile, les villes flamandes étant jusqu'alors restées neutres. Les patriciens ne sont pas fâchés de se débarrasser d'un comte de Flandre qui entendait contrôler les affaires financières des villes. Ils se tournent même vers le roi de France, qui est déjà intervenu en leur faveur par le passé. Le reste de la population urbaine, quant à elle, attend plus de justice et une meilleure répartition des richesses. À cette époque, la France connaît une grave crise climatique qui a provoqué des disettes, des famines, et des morts nombreuses à travers toute l'Europe. Au cours de ce siècle, la France sera impliquée dans des conflits, notamment la guerre de Cent Ans qui a commencé en 1337, bien que des tensions aient déjà commencé à se développer dans les années 1300. Philippe IV, surnommé Philippe le Bel, a régné jusqu'en 1314, et son règne a été marqué par des réformes administratives et des conflits avec le pape. Cette période a vu un certain développement économique avec une croissance des villes et du commerce, bien que des crises graves dues à la famine aient également eu lieu. Philippe IV, dit Philippe le Bel, ainsi que le roi de fer, né au printemps 1268 au château de Fontainebleau, où il est mort le 29 novembre 1314, fils de Philippe III le Hardi et de l'infante Isabelle d'Aragon, petit-fils de Louis IX et roi de France de 1285 à 1314, le 11e de la dynastie des Capétiens directe, qui remonte sans interruption à 987, depuis Hugues Capet. Il est aussi roi de Navarre de 1284 à 1305, sous le nom de Philippe Ier par son mariage avec la reine Jeanne Hire. Il devient roi de France en octobre 1285, à l'âge de 17 ans. Le royaume de France est alors à l'apogée de sa puissance au Moyen Âge. Avec 16 à 20 millions d'habitants, c'est l'État le plus peuplé de la chrétienté et il bénéficie d'une grande prospérité économique, malgré le déclin des foires de Champagne, concurrencé par le commerce direct entre l'Europe du Nord, Bruges, et l'Italie, Venise, Florence. Sous le règne de Philippe le Bel, le pouvoir royal se renforce considérablement. Philippe IV croit trouver une solution à ses difficultés financières et monétaires en abattant l'ordre du Temple, devenu une puissance financière internationale, et en expulsant les Juifs tout en confisquant leurs biens. Il rétablit une monnaie d'or qui va rester stable pendant plus d'un siècle. Son règne est marqué par plusieurs affaires judiciaires. Les procès de l'évêque de Troyes, Guichard, accusé d'avoir tué la reine Jeanne Hire par sorcellerie, et de l'évêque de Pamiers, Bernard Cessé, source de tensions accrues avec le Saint-Siège. L'affaire de la tour de Nesle, avec l'emprisonnement des brus du roi et l'exécution de leurs amants, et surtout le procès des Templiers.
Alors que Jacques de Molay arrive en France, il est prêt à tout pour faire la promotion de sa nouvelle croisade. Pourtant, il ne le sait pas encore, mais il ne retournera jamais en Orient. Il est le 23e grand maître de l'ordre du Temple, et il en sera le dernier. Car dans son dos, deux hommes travaillent en secret depuis plusieurs mois pour fomenter l'un des plans les plus machiavéliques de l'histoire. faire tomber l'ordre du temple. Ces deux hommes sont Philippe IV, roi de France, dit Philippe le Bel, et Guillaume de Nogaret, son plus proche conseiller. À cette époque, Philippe le Bel est déjà roi depuis plus de 20 ans. Il est surnommé le roi de fer.
La personnalité de Philippe le Bel est un mystère peut-être encore plus impénétrable que le mystère des Templiers. Un homme d'une intransigeance et d'une force de caractère épouvantable.
Philippe le Bel, il est à la fois autoritaire et propagandiste. Il sait très bien manipuler l'opinion. Donc c'est un roi moderne.
Aux côtés de Philippe le Bel, il y a Guillaume de Nogaret.
Guillaume de Nogaret est une sorte de fonctionnaire royal, très polyvalent. Il s'occupe à la fois d'affaires économiques, d'affaires financières, d'affaires politiques, de conflits avec les églises locales ou avec des évêques. Donc c'est vraiment une sorte de premier ministre complet et qui a une vision globale du royaume.
Les raisons qui ont poussé les deux hommes à faire de l'ordre du temple leur cible à abattre sont multiples. La première, la plus évidente, c'est l'argent.
Philippe le Bel a une politique territoriale très agressive et très dynamique, aussi bien vers le sud de la France, vers Lyon, que vers le nord, vers la Flandre. Et donc il est en guerre permanente au début des années 1300 avec les villes de Flandre et la noblesse flamande. Et donc ça lui coûte beaucoup d'argent, ses expéditions militaires.
En 1307, le royaume de France était au bord de la banqueroute. Le roi de France était endetté jusqu'au cou avec les banquiers étrangers.
Les finances de la couronne française étaient au plus bas et les Templiers étaient une source évidente de richesse. Si le roi parvenait à les faire tomber, il pouvait avoir accès à leur argent. Du moins, c'est ce qu'il espérait.
Si l'argent des Templiers représente pour Philippe le Bel une aubaine compte tenu des finances désastreuses de son royaume, la raison principale qui l'a poussé à s'attaquer à l'ordre du Temple est sans doute plus politique. Ce que le roi de France cherche à tout prix en ce début de XIVe siècle, c'est asseoir son autorité sur son pays au détriment de celle d'un homme, le pape. L'ordre du Temple est en réalité un moyen pour Philippe le Bel d'obtenir ce qu'il cherche par-dessus tout depuis le début de son règne, le pouvoir absolu.
Philippe le Bel essaye de créer un nouveau type d'État où le roi est au-dessus de tout le monde. Selon lui, le roi doit être le pouvoir principal dans son pays. Et il reçoit son pouvoir directement de Dieu, pas du pape.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
L'Ars Nova est un courant de la musique médiévale occidentale centré sur la France et qui englobe une période comprise entre l'écriture du roman de Fauvel, 1310-1314, et la mort de Guillaume de Machaut en 1377. On utilise parfois ce terme pour désigner d'une manière générale l'ensemble de la musique polyphonique européenne du XIVe siècle, ce qui inclut des compositeurs italiens tels Francesco Landini, Jacopo da Bologna, Paolo da Firenze, Gherardello da Firenze ou encore Lorenzo da Firenze. Cependant, on se sert plutôt du terme parallèle Trecento, ce qui signifie 14e siècle en italien, pour désigner la musique créée par ceux-ci et leurs compatriotes. La musique sous Philippe le Bel est marquée par des innovations et des mouvements musicaux qui ont profondément influencé la période. Il est probable que l'Ars Nova ait eu un impact significatif sur la création musicale de son époque. Les mouvements musicaux modernes et non conformistes de l'Ars Nova, qui ont été favorisés par Philippe le Bel, ont probablement inspiré et influencé la musique de son temps. Le siècle de la guerre de Cent Ans est pour la musique celui de l'Ars Nova, art résolument moderne, nouveau, dont se sont enflammés les esprits de la génération qui suivit Adam de la Halle. L'Ars Nova correspond à de profondes modifications de la musique. Dans l'esprit, à l'idéalisme ingénu du temps de Saint-Louis succède sous Philippe le Bel un réalisme brutal, une tendance au non-conformisme ainsi qu'un désir de se libérer des contraintes des canons grégoriens. Dans la technique, le perfectionnement des pièces vocales à trois ou quatre parties nécessite des améliorations dans l'écriture de la musique. Il s'agit de se libérer des formules rythmiques stéréotypées en donnant naissance à la notation proportionnelle. Ce nouveau système harmonique ne deviendra cohérent qu'à la fin du XIVe siècle. Comme musicien de cette période, il faut citer Philippe de Vitry, théoricien, il met en musique le poème « Roman de Fauvel », Guillaume de Machaut, 1300-1377, poète et musicien, ballade, rondo, motet, il crée un genre nouveau, la messe polyphonique, la messe de Notre-Dame, dite la messe du sacre de Charles V. Et puis Francesco Landini en Italie, dont on a déjà parlé. Voici un extrait de « Douce dame jolie » de Guillaume de Machaut.
Tempo de l'Histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Denis Diderot, né le 5 octobre 1713 à Langres et décède le 31 juillet 1784 à Paris. C'est un écrivain, philosophe, encyclopédiste français des Lumières, à la fois romancier, dramaturge, conteur, essayiste, critique d'art, critique littéraire et traducteur. Qualifié de « Prométhée des Lumières », Diderot était doté d'une curiosité inlassable, d'une extrême sensibilité et d'une mémoire prodigieuse, si bien que son érudition couvrait un vaste éventail de domaines, allant de l'histoire ancienne à la chimie, en passant par les mathématiques et la physiologie. En plus de ses essais sur des questions de biologie, d'économie, de physique, d'éducation et de politique, il a laissé son empreinte dans l'histoire des divers genres littéraires auxquels il s'est essayé. Au théâtre, il pose les bases du drame bourgeois et recommande à l'acteur de s'adresser à un quatrième mur dans Paradoxe sur le comédien. Il révolutionne le roman avec La religieuse et la parodie du roman avec Jacques le fataliste et son maître, explore diverses formes de dialogue philosophique dans Le rêve de D'Alembert, Le neveu de Rameau et Ceci n'est pas un conte, et développe le genre de la critique d'art à travers ses salons. En outre, il est durant 20 ans la cheville ouvrière d'un des ouvrages les plus marquants de son siècle, la célèbre encyclopédie, grâce à laquelle il est en contact avec les recherches scientifiques les plus récentes et pour laquelle il rédige quelques 5000 articles, en partie de façon clandestine, expliquant notamment les grandes religions et les techniques artisanales, tout en dénonçant les croyances erronées auxquelles il applique des principes de méthodologie historique. En 1757, la musique française était marquée par des querelles musicales et des discussions sur l'identité nationale. Les compositeurs, comme Jean-Philippe Rameau et Lully, étaient au cœur de ces querelles, avec Rameau qui a commencé à faire entendre ses opéras et Lully qui a fixé le modèle de l'opéra français. La langue française était également un sujet de débat, avec Rousseau affirmant que la musique française manquait de mesure et de mélodie en raison de la langue qui ne le permettait pas. Ces discussions ont eu un impact significatif sur la musique de l'époque et ont contribué à la formation de l'identité musicale française.
Que la morte d'Alcide au séjour du tonnerre soit jalouse de tes bienfaits et vienne sur la terre voir les dieux que tu aimons toujours le vin, la tendresse, convives et maîtresses, invite-t'a jouir, invite-t'a jouir. Tout plaisir m'enchante, je bois, je ris, je chante, toujours dans l'attente d'un nouveau plaisir. Point de tristesse, vivons sans cesse, passons nos jours dans les amours et dans l'ivresse. Passons nos jours dans les amours. Passons nos jours dans les amours et dans l'ivresse, et dans l'ivresse.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
L'assassinat du pasteur Martin Luther King, l'un des principaux meneurs du mouvement américain des droits civiques aux États-Unis et prix Nobel de la paix, a lieu au Lorraine Motel à Memphis, dans le Tennessee, le 4 avril 1968. Martin Luther King est transporté à l'hôpital Saint-Joseph de la ville où sa mort est prononcée. Le lendemain démarrent les émeutes de 1968 à Chicago qui durent plusieurs jours et causent la mort de 11 personnes en plus de s'étendre à 125 villes des États-Unis. L'assassinat a lieu en pleine campagne de l'une des deux élections présidentielles les plus serrées de l'histoire. Le président démocrate Lyndon B. Johnson s'étant retiré malgré le raz-de-marée dont il avait bénéficié à la précédente, gagnant par le score le plus élevé de l'histoire de l'après-guerre.
Le 4 avril 1968, Martin Luther King, ardent défenseur des droits des Noirs américains, est assassiné d'une balle dans la tête devant sa chambre d'hôtel à Memphis. La disparition de cette icône, prix Nobel de la paix qui n'a pas encore 40 ans, suscite l'émotion du monde entier. En 1968, cela ne fait que quelques années que Noirs et Blancs peuvent manger dans les mêmes restaurants, s'asseoir côte à côte dans les bus ou apprendre à lire dans les mêmes écoles. Le pays sort à peine de 100 ans de ségrégation raciale. La ségrégation raciale commence peu de temps après la guerre de sécession. Cette guerre civile qui oppose le Nord et le Sud des États-Unis conduit à l'abolition de l'esclavage par Abraham Lincoln. Noirs et Blancs sont enfin égaux devant la loi.
Mais les activistes du Sud, racistes et négriers, ne l'ont pas encore admis.
Ils se sentent menacés par le départ de leurs esclaves qui assuraient jusqu'ici l'exploitation de leurs plantations. Ils décident de contourner la Constitution qui accorde aux Noirs le droit de vote et la citoyenneté et votent une série de lois qui les écartent de tous les lieux et services publics utilisés par les Blancs.
Est-ce que tu voudrais aller à l'école avec des petits Noirs ?
Non. Il n'y a pas de raison, c'est ridicule.
C'est contre cette ségrégation raciale que Martin Luther King s'est battu pendant près de 10 ans, devenant très vite l'un des leaders d'un vaste mouvement de résistance, le Civil Rights Movement.
Je suis contre la violence.
Martin Luther King est un jeune pasteur de 26 ans lorsqu'il sort de l'ombre en 1955. Remarqué pour ses talents d'orateur lors de l'un de ses sermons, il prend la tête d'un mouvement de protestation contre l'arrestation de Rosa Parks, une femme noire qui a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus de Montgomery. Quelques mois plus tard, la Cour suprême interdit la ségrégation dans les bus. Cette première victoire a pourtant un arrière-goût amer. La ségrégation raciale est encore en vigueur dans de nombreux États et la plupart des Afro-Américains continuent de subir les violences des racistes et suprémacistes blancs, notamment des membres du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan est une organisation secrète fondée en 1865 par d'anciens officiers sudistes de la guerre de sécession. Son objectif, assurer la suprématie de la race blanche qu'ils considèrent supérieure. Terrifiants dans leur tenue fantasmagorique, les membres du clan font régner la terreur à coups de pendaisons, de lynchages, de massacres et d'humiliations.
Tout cela est ridicule, affreux et inutile.
Pourtant, face à cette violence, malgré les arrestations, les menaces de mort et les attaques à la bombe, Martin Luther King continue de revendiquer la désobéissance civile. La désobéissance civile est une forme de résistance non violente. Inspiré par Gandhi, Martin Luther King veut convaincre par la seule force des mots. Ces marches pacifiques rassemblent des milliers de personnes dans tout le pays. Néanmoins, cette doctrine suscite également la désapprobation de certains Noirs qui doutent de son efficacité et proclament le Black Power, dont l'un des leaders, Malcolm X, est lui aussi assassiné. En 1963, la marche de Washington marque l'apogée du mouvement. Plus de 200 000 personnes défilent. De nombreux orateurs prennent la parole devant le Lincoln Memorial et Martin Luther King y prononce son plus célèbre discours.
I have a dream.
Un an plus tard, le 3 juillet 1964, le président Johnson signe le Civil Rights Act, qui déclare illégale toute forme de discrimination. Deux mois après sa mort, la police arrête James Earl Ray, un suprémaciste blanc qui avoue le meurtre et est condamné à perpétuité. Mais il revient sur ses aveux, et certaines failles dans l'enquête alimentent la théorie d'un complot fomenté dans les plus hautes sphères politiques.
Free at last! Thank God Almighty! We are free at last!
Première de la comédie musicale Air, présentée pour la première fois à Broadway le 29 avril 1968, cette comédie musicale a eu un impact culturel majeur et a introduit des thèmes de contre-culture et de liberté d'expression. Chevalier a donné son dernier concert à Paris, marquant la fin d'une époque pour la chanson française.
Les Godménil montants sont toujours remontants, même en redescendant les rues de Ménilmuchet. Ils ont le cœur ardent, le cœur et tout le restant, tant qu'ils s'en vont chantant, Ménil montant. Voilà les gars de mon village, ni plus mauvais ni meilleur que tous les gars à la page que l'on voit partout ailleurs. Ils sont tous les genoux d'un autre âge qui rendront au pays toute sa vigueur. Les Godménilmontants sont toujours remontants, même en redescendant les rues de Ménilmuchet. Ils ont le cœur ardent, le cœur et tout le restant, tant qu'ils s'en vont chantant Ménil montant. Flac, flac.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.